Donc, la semaine dernière, on a vu un message d'introduction de Pasteur Marc par rapport au livre d'Exode. Et ce matin, on va aller creuser un peu plus dans le livre d'Exode au chapitre 1. On en fera la lecture ensemble. Je vais avoir sur l'écran le texte en français. Par contre, si vous êtes plus confortable dans une autre langue, n'hésitez pas à suivre le texte aussi dans votre langue de cœur, votre langue avec laquelle vous êtes le plus confortable. Donc, ce matin, mon message s'intitule « Le Dieu déterminé à bénir ses enfants, à bénir son peuple, à bénir ceux qui l'honorent ». Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est grand et à travers le livre d'Exode, on voit qu'il y a beaucoup, ma foi, beaucoup d'opposition pour ceux qui veulent suivre le Seigneur. Mais on voit que face à cette opposition-là, on a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est déterminé. Donc, voyons ça un peu plus dans le texte d'Exode. Donc, on va commencer la lecture. Voici les noms des fils d'Israël, Lévi, en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles ou rusés vis-à-vis de lui. » Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et j'ai mis ici en vert, vous allez voir un peu dans le texte, certaines traductions alternatives ou d'autres manières dont on peut comprendre le texte. Donc, le roi leur dit qu'il pourrait combattre et sortir ensuite du pays ou littéralement prendre possession du pays. Donc, on a une peur, il y a une menace. On établit donc sur lui des chefs de corbée afin de l'accabler ou de l'opprimer avec des travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithom et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au Pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point où on les pouvra de la haine. Littéralement, c'est une haine qui est mêlée de frayeur pour eux. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux, avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Donc, ils leur donnaient deux jobs, là. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leur enfant? » Et que vous regarderez sur le siège d'accouchement. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient de la crainte de Dieu, et elles ne firent pas ce que le roi leur avait dit. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Oh, je m'excuse. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte, donc littéralement le respect ou de la révérence pour Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Et ici, il y a l'idée là, qu'il leur donna des enfants. Alors, le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Quelle histoire! Une histoire de cruauté, une histoire de difficulté pour un peuple qui avait, ma foi, rien demandé ou rien fait pour avoir mérité une telle violence, une telle oppression. lorsqu'on regarde le monde aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes dans divers pays, divers peuples sont exposés à des souffrances qu'ils n'ont pas demandées, qu'ils n'ont pas méritées. Et ce n'est pas d'hier, c'est ce que la Bible nous apprend, ce n'est pas d'hier qu'il y a des hommes ou des femmes qui veulent opprimer d'autres gens. Allons voir un peu plus dans le contexte maintenant de qu'est-ce qui s'est passé, pour nous aider un peu à comprendre ce texte-là. Donc, on apprend dans le texte que voilà, la famille de Jacob arrive en Égypte et ils se tiennent devant un nouveau pharaon. Maintenant, il faut comprendre, Dieu avait fait la promesse à Abraham qui lui donnerait un pays en héritage. Et ce pays-là n'était pas l'Égypte. Donc, les descendants d'Abraham arrivent en Égypte comme des réfugiés. Ils n'y arrivent pas de plein gré ou parce qu'ils avaient envie de visiter l'Égypte, de faire un beau petit voyage touristique. Ils arrivent parce qu'il y a famine. Donc, ils ne peuvent pas rester dans la terre où ils sont, où ils ont été appelés à aller, à être, à demeurer. Ils doivent aller en Égypte. Et au départ, ils sont accueillis. Ils sont accueillis, on le voit quand on lit la fin de Genèse, hein, Jacob a ouvert la porte pour eux et puis ils arrivent et je pense qu'il y a une petite intégration qui est partielle. Donc, Joseph, lui, s'est très bien intégré hein, à un tel point que quand ses frères le rencontrent, Joseph parle la langue du pays assez bien, ma foi, parce que ses frères... Et ils ne se rendent pas compte que quand il y a besoin d'un traducteur, il n'y a pas vraiment besoin d'un traducteur. Donc, j'ose imaginer que Joseph, qui est arrivé comme adolescent dans le pays, parle non seulement bien la langue, mais son accent n'est pas assez prononcé pour qu'on reconnaisse que c'est lui. Son apparence et ses manières sont assez égyptiennes pour qu'on pense que même que sa propre famille pense qu'il est égyptien. La Bible nous montre même, lorsqu'on lit les récits du décès de Jacob et qu'on lit les récits du décès de Joseph, ça nous laisse croire que même les rites funéraires ont été faits comme les Égyptiens. Le texte nous dira même que le corps est baigné dans des aromates pendant 40 jours, ce qui était une pratique habituelle chez les rites funéraires de Jacob. Il dit « c'est un deuil pour l'Égypte, les Égyptiens ». Font un deuil, là. Ils ne voient pas des Hébreux. Eux, ils voient des Égyptiens. Pourquoi? Parce que Joseph s'est intégré d'une certaine manière au peuple qui est particulière. Il marie une Égyptienne. Il prend un nom égyptien. Donc, Joseph s'intègre. Par contre, avec sa famille, hein, ils sont des bergers. Le texte nous dit qu'ils sont envoyés dans une certaine région d'Égypte parce que les Égyptiens ont en horreur ce genre de pratique-là. Donc, ils gardent quand même une partie du peuple, va garder une partie de leur tradition, de leur culture. Et donc, c'est comme ça que se crée une culture. On pense qu'il s'est écoulé un siècle ou deux entre Joseph et l'Exode. Donc, plusieurs générations ont le temps de passer. Par contre, ces immigrants-là qui sont arrivés, ces réfugiés-là, ils voient quand même une distinction aux yeux des Égyptiens. On dira dans le texte qu'il vient un nouveau roi qui n'a pas connu Joseph. Maintenant, lorsqu'on regarde un petit peu les différentes théories au niveau du livre de l'Exode, hein, on a des récits et des informations au niveau historique par rapport au peuple égyptien qui nous laissent hésiter à peu près dans quelles années peut-être le récit de Jacob serait situé et de Joseph, pardon, l'histoire de Joseph versus la persécution des Hébreux. Par contre, dans l'une de ces options-là qui est levée, il y aurait eu une transition possiblement de dynastie au niveau des Égyptiens. Donc, il y a plusieurs manières dont on peut le comprendre. On peut se dire, peut-être ils ne l'ont pas connu parce que ce n'était pas le même clan politique. Donc, c'est un petit peu comme si aujourd'hui, hein, on a eu Joseph aurait été un leader chez les libéraux, un grand leader, et là, tout d'un coup, c'est les conservateurs ou le NPD qui rentrent au pouvoir, et puis là, on ne parle pas trop de Joseph. On le met en oubli parce qu'il appartient à un autre système politique. Il y a aussi la possibilité que, Joseph, on se souvient de lui non pas comme un Hébreu, mais comme un Égyptien, parce qu'il était tellement bien intégré. Donc, les Hébreux, ils n'ont rien fait pour nous. C'est un Égyptien qui a fait. Et peut-être un fait intéressant pour votre information, il y a une stèle qui a été retrouvée en Égypte qui parle d'une famine de 7 ans et qui raconte l'histoire d'un ministre égyptien qui aurait interprété un rêve que le pharaon aurait fait par rapport à une famine. Mais il y a un nom égyptien. Et le Dieu auquel il est associé, ils vont dire, c'est le Dieu créateur, celui qui a formé le premier homme et la première femme. Mais il lui donne le nom d'un Dieu égyptien. Alors, possiblement que ce qu'ils ont dans leur souvenir, ils ont oublié la contribution à leur pays, à leur culture, qu'ont donné ces réfugiés-là, ces immigrants-là. Alors, ils se souviennent en positif, les actions positives, ils s'en souviennent comme étant de leur peuple. Et les choses qui les dérangent, bien, ils s'en souviennent comme venant de l'autre peuple. Mais en fait, c'est le même peuple. Ce qui se passe ici aussi, c'est qu'il y a un mépris de la différence. Hein, on le sait, quand on est exposé à la différence, on peut soit dire, bien, écoute, la différence, c'est quelque chose qui enrichit, qui m'apprend, qui m'aide à me connaître mieux, à grandir comme peuple, mais ça peut aussi être quelque chose qui fait peur, qui amène un dégoût, qui donne une opportunité de prendre l'avantage sur quelqu'un. Et dans l'histoire, on voit aussi une mesure, un peu une escalade des mesures d'oppression. Donc, le pharaon commence tranquillement, mais plus ça ne marche pas, plus il révèle ses intentions par ses actions. Et c'est souvent comme ça qu'on le voit aussi. La violence, ça commence souvent doucement et ça escalade de plus en plus quand les gens ont le cœur mal intentionné. Empêchons-le de devenir trop nombreux, dira le pharaon. Il a un plan, il sait ce qu'il veut. Mais comment est-ce qu'il s'y prend? Le texte nous dira qu'il va leur imposer des corvées. Et ici, j'aimerais dire potentiellement loin de leur famille. Donc, ils sont envoyés dans 2 villes pour construire 2 villes. Mais le texte nous dit qu'ils sont partout dans le pays. Le texte nous dit qu'à la base, ils se sont installés dans une autre région. Donc, qu'est-ce que le pharaon fait pour les empêcher de devenir nombreux? Bien, messieurs, allez donc travailler au loin. Ça va être plus dur de faire des enfants comme ça. On dira peut-être que la cruauté à laquelle il les a imposés, les corvées qui étaient imposées avec cruauté, hein, quand on soumet des gens à des travaux difficiles, des conditions de travail difficiles, c'est une manière dont on opprime. Et c'est une manière dont le pharaon s'y prend pour opprimer. Mais ça ne marche pas! Il continue d'avoir des enfants puis de se multiplier. Mais le pharaon dit, moi, j'ai un plan. Je veux les empêcher de devenir trop nombreux. Alors, il escalade et dit, bon, ben on va prendre les sages-femmes, on va prendre ça à part, et puis vous tuerez les enfants quand vous les verrez naître. Donc, plusieurs commentateurs ont cette idée en tête et ils disent, ben si la sage-femme hein, elle profite du fait que la mère elle est vulnérable pour mettre à mort son enfant, ben ça passera sûrement comme une mort-née. Ça passera de manière discrète. Hein? Ça arrive souvent. Aujourd'hui, peut-être un peu moins parce que nos avancées de la santé sont plus importantes, mais quand on pense à comment était l'accouchement avant, c'était une grande épreuve là, pour une femme. Beaucoup de femmes n'y survivaient pas, parce que l'enfant pouvait avoir le cordon autour du cou, il pouvait mourir né, on déclenchait pas nécessairement des grossesses, on n'avait pas de césarienne, donc il y avait toutes sortes de situations dont les gens étaient habitués à perdre des enfants. Alors le pharaon, il va de manière subtile et dit aux sages-femmes, allez tuer. Mais voilà que les sages-femmes résistent. Alors là, il interpelle tout le peuple. Il lui dit, mettez les enfants dans le Nil. Wow! Je ne sais pas si vous savez, mais pour les Égyptiens, le Nil était un dieu. Et donc, c'est possible qu'il y avait derrière ça une manière subtile d'apaiser la conscience, en remettre l'enfant dans l'eau. Le dieu du Nil décidera qu'est-ce qu'il fera avec l'enfant. C'est moins violent que toutes sortes d'autres formes de mort. Le corps disparaît. Donc, c'est possible que c'était, à l'époque, une mort, entre guillemets, douce et peut-être excusable pour certains dans leur compréhension des choses. Donc, très intelligent dans sa méchanceté, le pharaon. « Frères et sœurs, je vous apprends rien en vous disant ce matin que le mal, l'ennemi, les gens qui sont mal intentionnés ont un plan. C'est plate, mais si vous avez vécu assez longtemps, si vous êtes sorti un petit peu de votre cocon de sécurité, peut-être de l'Amérique du Nord, et même en Amérique du Nord, on voit ce genre de choses-là, le mal a un plan. Et on voit dans l'histoire qu'il y a toujours des bonnes raisons, entre guillemets, de faire le mal. Hein, le pharaon, il dit pas juste « Hey, on va les empêcher de devenir trop nombreux. » Il dit « Ben non, guys, si on les empêche pas de devenir trop nombreux, ils vont sortir du pays, on n'aura plus de main-d'œuvre. Si ils deviennent trop nombreux, là, peut-être qu'ils vont prendre pouvoir sur nous. Là. C'est nous là, qui va être écrasés. C'est nous qui va vivre dans la misère. Donc, faisons-les vivre dans la misère. » Donc, il utilise un raisonnement un petit peu tordu, mais pour proposer des bonnes raisons de faire le mal. Et peut-être aussi une forme de minimisation des conséquences de faire le mal. Hein? On fait juste les mettre dans le Nil. Tu vois, on fait ça comme ça. Des moyens détournés, hein? Imposer des grosses corvées. C'est un peu indirect, mais ça peut atteindre l'objectif. C'est un peu triste de se dire ça ce matin, non? Et si le texte restait là, on pourrait être bien déprimé. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Le texte nous montre que la bénédiction de Dieu est plus forte que la malédiction de l'être humain. Ce matin, je veux que tu l'entendes pour ta vie. Quand Dieu a décidé de te bénir, il n'y a pas personne qui peut t'ôter la bénédiction de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas éprouvé, mais Dieu a un plan. Quand le mal a un plan, quand l'ennemi a un plan, le plan de Dieu est plus grand. Amen. Dieu a toujours un plan. Nous le voyons dans le texte, il a commencé à bénir son peuple en leur donnant des enfants. Avant même que le pharaon se dise « Empêchons-les de devenir plus nombreux », Dieu a déjà commencé à bénir. Dieu, il est sur son chemin, il a commencé à bénir. Hein, le texte le dit, les Israélites deviennent très nombreux, très puissants, au point de remplir le pays. Dieu a toujours un plan et personne ne peut l'arrêter. Le texte nous dit, plus on accablait les Hébreux, plus ils devenaient nombreux. Il dit, les sages-femmes laissèrent vivre les enfants. Elles ont contribué au plan de Dieu. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Encore! Il était déjà nombreux et très puissant, mais il devient encore plus. Et Dieu fait prospérer les familles des femmes qui étaient sages-femmes. Vous savez, être sage-femme à l'époque, plusieurs des femmes qui étaient sage-femmes, c'était des femmes qui devaient être dévouées à aider d'autres femmes à enfanter. Et souvent, ces femmes-là, c'était des femmes qui n'avaient pas elles-mêmes eu la bénédiction d'avoir des enfants. C'est ce qui faisait qu'elles étaient là pour pouvoir aider d'autres femmes à accoucher. On n'avait pas de contraception comme à l'époque d'aujourd'hui. Donc, une femme pouvait avoir plusieurs grossesses successives, un enfant après l'autre, comme dans le temps, disons-le, de nos grands-parents. Mais ces femmes-là, elles ont obéi à Dieu et Dieu les a bénies. Il les a inclus dans devenir nombreux. Il les a inclus dans la bénédiction par leur obéissance. On participe à la bénédiction de Dieu. Vous savez, frères, à travers notre obéissance. Et c'est ce qu'on voit dans le récit des sages-femmes. Vous savez, frères et sœurs, si les sages-femmes n'avaient pas fait leur travail, Moïse serait peut-être pas né. Aaron serait peut-être pas né. On ne sait pas combien de temps s'écoule, là. Peut-être qu'il y a eu plus de temps. Peut-être que le père de Moïse d'Aaron serait pas né. Elles ont fait leur travail, le travail que Dieu leur a confié. Elles ont participé à la bénédiction du peuple de Dieu. Leur décision a eu un impact sur des centaines, des milliers, peut-être des millions de personnes. Mais comment est-ce que je peux participer à la bénédiction de Dieu par mon obéissance? Est-ce que c'est facile? Moi, si j'étais à la place des sages-femmes, puis que le premier ministre, disons qu'on le mettait dans le contexte aujourd'hui, le premier ministre du Canada me donnait un ordre, je ne sais pas si j'aurais envie de désobéir, sachant qu'il a peut-être tous les pouvoirs. Et là, on ne parle pas d'un régime démocratique, là. On parle de peut-être imaginer un autre régime politique. On vous donne un ordre. Vous faites quoi? On désobéit ou on obéit? C'est pas facile. C'est pas une décision facile. Elles ont dû réfléchir avant de prendre leur décision, de trouver le chemin. Mon frère, ma sœur, pour faire la volonté de Dieu, il faudra être intelligent. Il faudra chercher la sagesse de Dieu. Dans beaucoup de situations, c'est beaucoup plus facile de faire la volonté de l'homme. Dans beaucoup de situations, c'est plus facile de désobéir. Quand on est pris dans des situations qui nous pressent, avec des stress importants, ma vie, mon emploi, mon futur, le futur de mes enfants, le futur de mon mari, de toute ma famille. Vous savez, à l'époque, on a entendu bien des choses. Hein? Des fois, les rois, quand ils n'étaient pas contents contre une personne, c'est pas juste cette personne-là qu'ils vont tuer. Hein? C'est grand-maman, grand-papa, les enfants, les cousins, c'est tout le monde qui y passe. Et des fois, c'est pas juste tuer. Des fois, c'est la torture, c'est toutes sortes de choses. Donc, imaginez ce que ces femmes ont dû penser. Le récit de l'Exode, certains commentateurs diront, commence avec une délivrance pour le peuple opérée par des femmes. Les sages-femmes, on voit ensuite, c'est qui place le bébé dans la corbeille? C'est la maman de Moïse. C'est qui propose à la fille du roi la nourrice? C'est sa sœur. C'est qui élève l'enfant? C'est la sœur du... C'est cette princesse-là. Dieu utilise des hommes et des femmes pour amener la délivrance. Et le livre d'Exode commence avec le récit de femmes héroïques qui ouvrent la porte pour que Moïse et Aaron puissent avoir leur ministère. Frères et sœurs, l'homme ne va pas sans la femme ne va pas sans l'homme, et Dieu a besoin du courage, non seulement le courage des hommes, mais le courage des femmes aussi. Donc, pour participer à la bénédiction de Dieu par notre obéissance, il faudra d'abord dire non au plan du diable. Je vous le dis encore, les sages-femmes avaient de bonnes raisons d'avoir peur. Elles avaient des bonnes raisons de se questionner, de dire « moi, je dois faire les choses, mais je dois le faire de manière intelligente ». Vous savez, il y a une expérience qui a été faite. Si vous avez étudié peut-être la psychologie, vous l'auriez entendu. Ça s'appelle l'expérience de Milgram. Donc, il a fait une expérience. Et dans cette expérience-là, il a trouvé que 28 à 91 % des gens se conforment à l'autorité au point d'infliger la mort à une autre personne. Donc, l'expérience se déroule comme ceci. Hein? Il a placé une personne et doit donner des chocs électriques à chaque fois que la personne de l'autre côté a la mauvaise réponse. La personne de l'autre côté est un acteur, donc ce n'est pas une vraie mort, là, c'est une mort fictive. Mais la personne, plus elle avance, plus elle donne des chocs forts, au point où la personne de l'autre côté, elle crie, elle hurle, et à un certain moment, elle ne répond même plus. Et l'autorité lui dit, non, tu dois continuer à lui donner des chocs. Et évidemment, les chocs sont tellement élevés que c'est évident qu'ils causent la mort. Selon le pays, la région, le temps où ça a été fait, 28 à 91 % des gens vont se rendre jusqu'à tuer, du moins dans leur conception, quelqu'un parce qu'on leur a dit de le faire. Frères et sœurs, si on ne cultive pas la capacité dans nos cœurs de vraiment faire la volonté de Dieu et d'avoir comme autorité première Dieu, on est capable, nous aussi, de faire partie de ce pourcentage-là. Alors, ce matin, qui est ton autorité? De qui as-tu plus peur? Qui est-ce que tu respectes le plus? Est-ce que c'est Dieu que tu respectes? Ou est-ce que c'est la personne en autorité au-dessus de toi? Et ce matin, je ne veux pas dire, ah, nous, les chrétiens, on va là, puis on manifeste dans la rue pour une chose et l'autre, on fait n'importe quoi. Moi, Dieu, c'est mon autorité, donc je ne dois pas répondre à mon chef au travail, je ne dois pas me soumettre à mon pasteur, je ne dois pas faire ceci ou cela. Ce n'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis ce matin, c'est quand l'autorité humaine défie l'autorité de Dieu, moi, mon autorité, c'est Dieu. n'est pas une question de préférence personnelle. C'est une question de suivre ma première autorité qui est Dieu, le Dieu de l'univers. Donc, la première étape pour contribuer à la bénédiction de Dieu, c'est d'abord de dire non au diable. Ensuite, il nous faut s'attacher aux promesses de Dieu. On ne fait pas rien dans la vie si on n'a pas d'espoir. On a besoin de cet espoir-là. Et Dieu satisfait notre espoir. Il nourrit notre espoir à travers sa parole. Et il y a tellement de versets que j'aurais pu mettre ici. J'ai choisi deux passages seulement aujourd'hui. Le premier vient du livre d'Ecclésiaste. Et voici ce que Salomon nous dit. En effet, le pécheur peut faire 1000 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont méchants, qui continuent d'être méchants, sont tellement déterminés, ils vont le refaire encore et encore et encore et encore et encore, ils ne sont pas prêts d'arrêter. Oui, c'est vrai, mais le bonheur, il n'est pas pour eux. Le bonheur, il est pour ceux qui font la volonté de Dieu. Le deuxième texte que je veux vous lire ce matin dans le livre d'Hébreux dit ceci. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom. Et nous désirons que chacun fasse preuve du même zèle. Le zèle, c'est une ardeur, c'est une détermination. Du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Par la foi et par la patience. La foi, c'est une conviction de ce qu'on ne voit pas. La patience, non, mais c'est pénible, là. C'est long parfois. Ça demande une persévérance. Imitez ceux qui, par la foi, ont reçu la promesse. Dieu n'a pas oublié. Il n'est pas ingrat pour nous oublier, frères et sœurs. Dieu voit toutes choses. Il voit le courage qu'on démontre, même si personne ne le voit autour de nous. Même si parfois même, et je dois vous dire, peut-être même dans l'Église, les gens vont dire, oh, « Mais pourquoi? Ou pour ci? Ou pour ça? » Des fois, on peut essayer de jouer un peu avec les barèmes moraux. C'est une tentation qu'on peut avoir même comme chrétien. Mais Dieu lui connaît. Il connaît si on veut vraiment l'honorer. Il connaît la fermeté de nos cœurs. L'autre chose dont on aura besoin, c'est d'avoir une attitude de respect face à Dieu. Donc, c'est là où on parle de la révérence par rapport à Dieu, l'émerveillement par rapport à Dieu, la crainte de Dieu. C'est intéressant, quand je lisais le récit, je me suis attardée, je me suis dit, mais attends, les femmes, là, les sages-femmes, elles n'ont pas vu d'ange, elles n'ont pas eu de buisson ardent. La parole ne dit pas qu'elles ont entendu la voix audible de Dieu. Pas de signe miraculeux, pas de rêve, pas de vision. Elles avaient seulement un cœur bien disposé, un cœur rempli de crainte pour Dieu. Frères et sœurs, je crois que le Seigneur nous parle encore de toutes ces manières aujourd'hui, de manière surnaturelle. Mais Dieu n'a pas besoin de te parler par un rêve. Il n'a pas besoin de t'envoyer un ange pour que tu fasses sa volonté. Ton cœur doit déjà être bien disposé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il va te donner une révélation personnelle. Mais si tu as besoin d'une révélation personnelle pour faire la volonté explicite de Dieu, mon frère, ma sœur, ça ne va pas. Dieu n'a pas besoin de te répéter, là. Si c'est écrit dans sa parole, il désire que tu l'honores par ton obéissance. Et ces femmes-là ont été un peu, et me faisaient penser, ces sages-femmes-là, aux amis de Daniel. Vous savez, quand les amis de Daniel, on leur a dit, « Écoutez, vous devez vous prosterner devant le roi. » Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, « Ben moi, mon Dieu, il est capable de me délivrer de ta main. » Et il va le faire. Mais même s'il ne fait pas, même s'il ne me délivre pas, je ne vais pas me prosterner. Et j'imagine que les sages-femmes ont eu un peu la même attitude. On va réfléchir à notre manière de faire les choses. On va démontrer notre crainte de Dieu. On ne va pas tuer les enfants. On va avoir une réponse prête pour le pharaon. peut-être que ça ne marchera pas. Mais d'une manière ou d'une autre, nous, on ne va pas tuer. On va craindre Dieu. On ne sait pas comment ils se sont pris, mais on sait que leur volonté est impliquée parce que la parole de Dieu nous dit « elles n'ont pas fait » et Dieu les a bénis parce qu'elles n'ont pas fait. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'ils ont dit aux femmes hébreues « écoute, si tu me fais venir, je vais être obligée de tuer l'enfant, donc fais-moi pas venir. Appelle-moi quand tu auras terminé et je vais venir et je vais dire « ah, ben là, on ne sait pas, peut-être que c'est ce qui s'est passé, peut-être que c'est autre chose. » On ne connaît pas la stratégie, mais ce qu'on connaît par contre, c'est qu'elles ont pris une décision dans leur cœur. « Moi, je vais honorer Dieu. » Moi, je vais honorer Dieu. Voici ce qu'Hébreu nous dit en Hébreu 11, un passage célèbre que vous connaissez. Et puis là, ben, j'ai dû rétrécir un peu. Mais ici, l'essentiel est ceci. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés. Eux dont le monde n'était pas digne, tous ceux-là n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Dieu va te bénir. Parfois, on obéit à Dieu, on demeure dans le respect de Dieu et on ne voit pas notre bénédiction. Parfois, on vit des conséquences pour notre obéissance. Mais Dieu nous inclut quand même dans le palmarès des héros de la foi. Dieu a quand même une récompense pour nous dans l'éternité. Donc, ce matin, je ne veux pas vous dire « Ah oui, c'est tout à l'eau de rose, c'est toujours comme un film hollywoodien, hein, les deux amoureux se rencontrent, puis après deux jours, ils se marient, puis tout va bien, puis là, là, là. » On n'est pas dans un film, là. On est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, oui, parfois, on peut subir des conséquences de notre obéissance à Dieu. Mais la bénédiction de Dieu éternel ne peut pas nous être enlevé. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Frères et sœurs, peut-être tu as été obéissant à Dieu, peut-être tu as agi avec la crainte de Dieu, mais tu n'as pas vu ta bénédiction encore. Je veux te dire ce matin que Dieu n'est pas injuste pour t'oublier et que Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Amen. Parfois, on vit des conséquences pour notre obéissance dans un domaine de notre vie, mais tout d'un coup, Dieu nous bénit dans un autre domaine de notre vie. Est-ce que tu penses que c'est par hasard? Ton Dieu connaît ton obéissance. Ton Dieu veut te bénir. Dieu attache une bénédiction à ton obéissance. Elle est attachée, elle est à toi. Il s'agit que tu la saisisses par la foi. Il s'agit que tu la saisisses par ton obéissance, parce que Dieu veut te bénir. Christ, lorsqu'ils étaient sur la croix crucifié, il est mort. On pensait bien avoir vaincu. On pensait bien avoir dominé le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? La résurrection. Il est ressuscité. Il a été glorifié. Dieu nous montre dans la vie de son Fils, tout comme dans l'histoire de l'Exode, qu'il a un plan et que le diable, là, même avec ses gros sabots, même avec la souffrance qu'il impose, ne peut pas détourner le plan de Dieu. Il n'y a pas de défi, là. Dieu est vainqueur. Et toi aussi, tu es vainqueur dans ton obéissance à Dieu. Donc, si on résume, tu peux vivre des difficultés pendant longtemps, mais ultimement, personne ne peut contrecarrer le plan de Dieu pour ta vie. Ça ne me dérange pas, c'est qui cette personne-là peut-être qui t'opprime, qui te fait souffrir, ou ce système-là. Il n'y a pas la victoire. Christ est victorieux. Dieu est victorieux. Le peuple de Dieu, parce qu'il est attaché à Dieu, est victorieux. Dieu se sert de gens ordinaire pour accomplir son plan. Et mon obéissance peut changer le monde. Je parie que ces dames-là, quand elles ont décidé de devenir sage-femme, elles ne se sont pas dit « Moi, Dieu va se servir de moi pour changer le monde. » Non, moi, je fais juste aider des femmes à mettre au monde des bébés. Hein. C'est juste ça, mon travail. Mais Dieu avait un temps, il avait un kairos, il avait un moment précis pour que ces femmes-là, leur obéissance, ait un impact sur des régénérations et des générations. Mon frère, néglige pas l'endroit où Dieu t'a placé. Que ce soit dans une famille ou dans un travail, Dieu a un moment aussi où ton obéissance va faire une différence pour les gens autour de toi. Demande à Dieu la grâce de t'aider à reconnaître ce moment-là. Moi, c'est une prière que je fais. Seigneur, aide-moi à reconnaître les moments significatifs, les plaques tournantes, ces moments qui vont changer peut-être la vie d'autres personnes autour de moi ou même ma propre vie, pour que je sois capable d'y réagir de la bonne manière, que je sois capable d'être dans la révérence face à toi. Alors que je préparais ce message, j'ai fait un rêve et Dieu me montrait une relation que dans ma vie à une personne et il me dit « Voilà, c'est ça l'émerveillement de Dieu. Voilà, c'est ça la crainte de Dieu. » Et je me posais la question, je priais, mais je dis « Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. » Et puis hier, je parlais avec un frère et lui-même me ramenait dans le livre d'Exode à Moïse devant le buisson ardent. Une situation, je pense, la crainte de Dieu, c'est quand tu reconnais que dans une situation, c'est une plaque tournante. Dieu est là. Wow! Et Dieu peut être là dans la manière dont tu entres en relation avec une personne. Dieu peut se révéler à toi sa grandeur à travers quelque chose, un pas d'obéissance qui t'appelle. Et là, tu dis « Wow! » J'étais là avec cette personne-là et dans cette conversation-là, c'était mon buisson ardent. C'était l'espace où Dieu voulait me rencontrer. Wow! Wow! Comment ne pas fléchir le genou? Comment ne pas être émerveillé que Dieu se serve de gens si simples, si ordinaires? Dieu m'appelle au courage, mais Dieu m'appelle à la bénédiction aussi, à partager à la bénédiction. Indépendamment de si je suis homme, femme, noir, blanc, jeune, vieux, indépendamment de ces choses-là, Dieu, il ne voit pas ces choses-là. Il voit, c'est mon enfant qui met ma parole en pratique et j'ai une bénédiction que l'homme, la femme, la personne qui est opposée ne peut pas arrêter. C'est un peu comme si Dieu disait à ces gens-là hein, qui font le mal, « Bonne chance, bonne chance. Moi, je suis plus grand que toi. » Dieu attache toujours une récompense à mon obéissance. La seule chose qui peut me couper de cette bénédiction-là, c'est ma désobéissance. Et même là, la Bible nous montre que Dieu est déterminé à ramener ses enfants. Combien de fois le peuple d'Israël s'est détourné. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise tout de suite, hein? Ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans à cause de leur désobéissance, mais ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa promesse. Donc, parfois, Dieu nous permet de vivre les conséquences de notre péché. Parfois, il nous discipline. Mais ultimement, il ne veut pas nous couper de la bénédiction. Donc, frères, sœurs, peut-être que tu vis de la culpabilité par rapport à un péché dans ta vie. Demande pardon à Dieu. Laisse-le te ramener. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'inclure dans la bénédiction de son peuple. Et pour obtenir la bénédiction, il faudra, comme on disait tout à l'heure, dire non au plan du diable. Il faudra avoir la bonne attitude face à Dieu. Il faudra s'attacher aux promesses de Dieu pour trouver le courage dont on a besoin. Le courage, on n'est pas né avec ça. L'obéissance non plus. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? Déjà à 2 ans, non! Non! Et puis là, ça se gâte, hein? L'adolescence arrive et c'est pas mieux. Le pire, c'est que quand on est adulte, hein, on n'a plus personne pour nous corriger. Donc, des fois, c'est pénible. Peut-être que vous êtes marié et vous dites, « Ah oui, hein? » J'aurais aimé ça que mon mari ou ma femme écoute ses parents quand ils étaient plus jeunes. J'aurais aimé ça qu'ils apprennent ça avant qu'on se marie, tu sais. L'obéissance, le courage, c'est pas quelque chose, on n'est pas avec ça, on le choisit. On le nourrit dans la prière. Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que je vais être confrontée à une situation comme ça. Donne-moi le courage dont j'ai besoin. Bâtis en moi l'obéissance dont j'ai besoin, dans les petites choses. C'est comme un muscle. Le muscle du courage ou de l'obéissance. Hein, vous voyez peut-être ces athlètes-là, ils sont musclés, là. Wow, ils marchent comme ça, pas besoin de... C'est difficile de plier les bras, hein? Maintenant, si on oublie tous les suppléments, là, puis qu'on pense juste au fait de faire des bras, pour avoir des muscles, hein, il faut toujours les entraîner. Pour avoir le courage dont j'ai besoin, il faudra que je me pratique à être courageux dans les petites choses. Nourri dans les prières, puis nourri dans l'action. Si je vous posais cette question-là, comment va votre compas moral? Voyez-vous, dans le coin, un compas, c'est un petit outil qu'on utilise dans les mathématiques pour tracer un cercle parfait. Donc, on plante un pied et l'autre pied tourne et ça fait un cercle parfait. Pourquoi je dis compas? Parce que Dieu trace des lignes. Il trace des lignes autour de nous. Ces lignes-là, ce sont les paramètres de sa parole. Et il dit, c'est ton obéissance, je veux pas que tu sortes de ces paramètres-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film « La petite princesse ». C'est un vieux film, là. Je pense que ça date de la fin des années 90. C'est un film que j'écoutais beaucoup quand j'étais enfant. Et le récit commence avec une histoire où avec une flèche, il trace dans le cercle, un cercle autour de la princesse. Et l'amoureux de la princesse lui dit, « Tant que tu ne sors pas de ce cercle-là, tu es en sécurité. » C'est ce que le Seigneur nous dit aussi. Voici, j'ai tracé un cercle autour de toi. Le cercle dans lequel tu restes attaché à mes bénédictions, le cercle dans lequel tu restes attaché à ma volonté, voudrais-tu rester dans ces paramètres-là que je te donne? Mais parfois, notre compas est un peu brisé, puis le cercle qu'on trace autour de nous, il est incomplet. Ah, moi, je fais juste la moitié d'un cercle. Hein. De l'autre côté, je peux sortir. Je fais ce que je veux. Ça, c'est pas le plan de Dieu. Dieu a un espace pour toi où tu es protégé. Laisse-le prendre soin de toi à travers ton obéissance. Frères et sœurs, saurez-vous être ingénieux et inflexible comme les sages-femmes pour faire face à des situations où faire la volonté peut sembler à votre désavantage? C'est souvent comme ça. Les situations les plus déterminantes dans nos vies sont souvent celles qui sont où on a des décisions les plus difficiles à prendre. Comment je vais m'y prendre pour faire la volonté de Dieu? Et c'est pas facile. C'est pas facile. Il me faudra être ingénieux et inflexible. Moi, j'ai déterminé de faire la volonté de Dieu. Maintenant, il s'agit de savoir comment. Comment mettre en pratique. De manière intelligente. De manière sage. De manière peut-être même à respecter l'autorité qui manque de respect à Dieu, tout en respectant Dieu en premier. Peut-être que j'aurai besoin de prier par rapport à ça pendant un certain temps. Peut-être que j'aurai besoin de parler avec mon pasteur. Peut-être que j'aurai besoin de me concerter avec des frères et sœurs. Comment va votre compas moral? Est-ce que c'est clair pour vous, les lignes tracées autour de vous? Il faudra d'abord plonger nos regards dans la parole de Dieu. Il faudra d'abord avoir médité sur la parole de Dieu, savoir ce que Dieu attend de moi. Mais Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier ma fidélité. Amen. Alors, prions ensemble pour demander à Dieu de déverser dans nos cœurs le courage dont on a besoin, la sagesse dont on a besoin, Ô Éternel, nous venons devant toi ce matin humblement, Père. Nous désirons faire ta volonté, Seigneur, mais on ne sait pas toujours comment. Comment, Seigneur Dieu, dans un monde d'injustice, pouvons-nous nous protéger du mal? Trouver la fermeté que c'est dans ta volonté. Comment, Seigneur Dieu, pouvons-nous trouver la fermeté que ces sages-femmes-là ont eue, Seigneur? Comment pouvons-nous faire une différence pour nos familles, pour les générations à venir, Seigneur? Comment pouvons-nous résister au mal quand le mal semble si déterminé, si acharné contre nous? Comment, Seigneur Dieu, pouvons-nous garder la foi que tu es encore plus déterminé que l'ennemi pour accomplir tes plans de bénédiction? Ô Seigneur, parfois notre foi vacille, on est dans le doute, on est dans la dépression même, Seigneur, parce qu'on se dit « Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce qu'on lâche pas de me faire le mal? Pourquoi est-ce que toute ma vie j'ai souffert comme ça? » Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore vu la bénédiction de Dieu? Seigneur, ouvre nos yeux pour voir comment déjà tu es déterminé à continuer à nous bénir. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir comment tu nous as déjà bénis dans le passé. Ouvre nos yeux, Seigneur Dieu, pour que nos yeux soient fixés non sur les choses de la terre, Seigneur, mais les choses du ciel. La bénédiction éternelle que tu as pour ton peuple. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es le Dieu qui accueille le réfugié, Père. Tu es le Dieu, Seigneur Dieu, qui prend soin des immigrants. Tu es le Dieu, Père céleste, qui prend soin de tout ton peuple. Tu es le Dieu qui est plus fort que tout plan de l'homme méchant. Et Seigneur mon Dieu, nous confions en toi. Viens en nos cœurs, Seigneur, bâtir le courage et la résistance dont nous avons besoin. Aide-nous à nous entraider, Seigneur, à nous enseigner comment faire ta volonté. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été pour nous l'exemple de l'obéissance parfaite, de la foi parfaite. C'est en son nom que nous te prions. Oui, donne-nous la même attitude qui était en Christ, qui t'a obéi jusqu'à la mort. C'est en ton nom que nous te prions. Amen.